Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Je vous retrouve dans cette quatrième saison de Dans ma vie d'infirmière. Je m'appelle Aurélie, j'obtiens mon diplôme d'infirmière en juillet 2015 et depuis je travaille à l'hôpital exclusivement dans le domaine de la cardiologie. Nous sommes partis ensemble pour une nouvelle année d'interview de professionnels et de patients dans l'optique de toujours vous faire découvrir les nombreuses facettes du domaine de la santé. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Désormais, installez-vous confortablement car voici un nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans le podcast de ce trimestre avec Ophélia, ergothérapeute de métier. Elle nous explique les différents aspects de son métier auprès des personnes âgées, la créativité, l'accompagnement du patient et de sa famille, l'amélioration des activités de la vie quotidienne. Et cela tout en étant en relation avec les différents professionnels qui grattent vite autour du patient. Bonne écoute. Salut Ophélia, merci de participer au podcast. Pour commencer l'interview, la question très classique, prendra de connaître. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Donc bonjour Aurélie, bonjour à ceux qui nous écoutent. Tout d'abord, merci de me donner la parole aujourd'hui pour parler de mon métier qui est encore peu connu du grand public. Moi, je m'appelle Ophélia, je suis ergothérapeute depuis maintenant 12 ans puisque je suis diplômée de l'école d'ergothérapie de Montpellier depuis juin 2012. J'exerce actuellement à l'hôpital de Gap dans différents services du pôle de gérontologie.
Est-ce que du coup tu peux nous retracer un peu ton parcours pro et aussi pourquoi tu as choisi le métier d'ergo?
Alors mon parcours pro, donc comme je disais, je suis diplômée depuis juin 2012. J'ai travaillé ensuite en clinique psychiatrique en sortie de diplôme. Ensuite, j'ai travaillé dans un hôpital recevant des personnes ayant des difficultés neurologiques pendant 9 mois. Et après, j'ai repris moi mes études en master à Lyon, donc master handicap et autonomie. C'est un master qui est pour les personnes dans le paramédical en général. C'est pas spécifique à l'ergothérapie. Il y avait beaucoup dans ma promotion d'ergothérapeute, mais pas seulement. Et avec en deuxième année une spécificité plus dans le handicap sensoriel et cognitif. C'est là que j'ai travaillé en parallèle et que j'ai intégré en fait l'hôpital, mais plus particulièrement dans le domaine de la gériatrie. J'y ai travaillé après pendant 8 ans, avant de venir donc à Gap pour poursuivre aussi en gériatrie, puisqu'en fait j'ai eu un réel coup de cœur pour ce domaine-là, qui n'était pas au départ forcément ce vers quoi je tendais. J'étais vraiment beaucoup plus sur de la rééducation et de la neurologie. Et finalement, donc, le hasard m'a menée jusqu'à la gériatrie et je m'y suis trouvée bien et j'y suis restée depuis maintenant presque 10 ans. Alors après, le métier d'ergothérapeute, c'est vrai que je m'y suis dirigée un petit peu par hasard. L'année du bac, l'orientation, c'était, j'avais pas d'idée très définie, je savais pas trop vers quoi je voulais me diriger. Donc au départ, j'étais peut-être partie plus vers des, je cherchais autour de la médecine, mais tout en ayant aussi un côté peut-être social. Donc je me suis renseignée, je connaissais pas du tout le métier d'ergothérapeute. Au fil de mes recherches, en fait, je suis tombée tout d'abord sur le métier de psychomotricien. Et puis en recherchant encore, c'est l'ergothérapie qui semblait correspondre à mes attentes à ce moment-là. Alors pourquoi? Peut-être parce que c'est un peu l'interface aussi entre la médecine et le social. Et puis aussi parce qu'il y avait un côté peut-être créatif qui me plaisait dans le métier d'ergothérapeute. Moi, j'ai toujours été un peu, voilà, un peu bricoleuse, un peu dans l'imaginatif aussi, dans ces domaines-là. Donc, il me semblait que ce métier alliait un petit peu aussi tout ça. Je cherchais un métier dans la relation humaine. Et puis aussi, ce qui m'a plu, c'est dans le descriptif, parce que j'avais pas du tout d'exemple très concret, c'était le fait de pouvoir en fait avoir beaucoup de possibilités et de diversité au sein même de ce métier, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, c'est toujours aussi des questions de se dire est-ce qu'on va être épanoui, est-ce que de choisir pour la vie, ça fait un petit peu peur aussi, et de se dire qu'au sein d'un même métier, finalement, il y avait beaucoup de diversité de pratique de ce que j'avais l'air de comprendre du métier. Après, c'est sûr que je me suis lancée donc tout de suite après le bac dans une année de préparation au concours à Montpellier, donc d'ergothérapeute. Et j'ai eu le concours à l'école de Montpellier, donc j'ai passé mes concours moi dans plusieurs écoles en France. J'ai eu mon concours à l'école de Montpellier et c'est vraiment en études d'ergothérapie que j'ai vraiment appris ce qu'était le métier. Il y a beaucoup de stages. L'avantage de ces formations aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir sur les 3 années de formation 9 mois de stage, donc d'apprendre vraiment ce qu'est le métier, de voir si ça plaît et si ça confirme aussi les attentes qu'on avait. Donc voilà, c'est vraiment une fois finalement en études d'ergothérapie que j'ai vraiment su ce qu'était, parce que l'année de prépa au concours, c'est vraiment une année pour, on nous apprend voilà, à s'entraîner pour passer les concours, mais on a finalement peu d'informations sur le métier d'ergothérapeute.
Et c'est sur combien d'années l'école?
L'école, en fait, c'est un diplôme d'État c'est sur 3 ans. C'est 3 ans d'études.
Comme les infirmières. Tu parlais que tu travaillais avec les personnes âgées. Ça consiste en quoi le travail que tu effectues auprès d'eux? Qu'est-ce que tu fais pour les aider au quotidien?
Alors moi, il faut savoir que je travaille donc dans plusieurs services où ça va être aussi, mon intervention va être différente en fonction du service dans lequel je travaille. À Lyon, j'ai longtemps travaillé dans un service de rééducation. Donc, ce qui touche vraiment à surtout la partie d'organiser les retours à domicile. Mais ce que je fais à Gap, en fait, donc j'interviens en EHPAD et USLD, donc unité de soins longue durée. Donc, il faut savoir que c'est leur lieu de vie aux personnes sont des résidents, donc ce sont leur lieu de vie. Là, mon intervention va être tout d'abord, ben, quand la personne arrive, de faire une évaluation pour apprendre tout simplement à connaître la personne, ses habitudes de vie, puis à la mettre en situation dans ses activités de la vie quotidienne. Je vais faire voilà un bilan à la toilette, un bilan pour la prise des repas, revoir l'installation aussi s'il y a besoin d'installation particulière, installation au lit ou par exemple au fauteuil, où sont les difficultés de la personne, si la personne est en capacité aussi parce que bon ben des fois il y a aussi les troubles cognitifs qui s'intriquent, de me donner des informations sur ses habitudes de vie à elle. Donc c'est un espèce de recueil assez global sur la personne. Et ça aide aussi après les équipes soignantes à voir un petit peu ben, comment accompagner la personne, s'il y a besoin d'aide technique particulière, si pour la toilette, quelle aide apporter. Donc ça, c'est vrai que c'est attendu dans le service où j'interviens, de pouvoir assez rapidement après l'arrivée de la personne avoir ce bilan qui reprend un petit peu ses capacités, parce que c'est vrai que moi, mon rôle, c'est vraiment de tout mettre en œuvre afin que la personne âgée soit la plus active et participative en fait dans son quotidien. Donc ça, c'est une des premières interventions que je vais avoir. Après, il y a aussi toute la partie, ben, tout l'accompagnement qui va s'en suivre, qui peut voilà se décliner sous différentes interventions. Ça peut être voilà de l'aménagement de l'environnement de la personne aussi pour qu'elle puisse participer au maximum. Ça peut être à travers des groupes pour justement que la personne préserve au maximum ses capacités résiduelles et puis aussi pour travailler avec d'autres professionnels hein. Je pense là à Gap, c'est vrai que je travaille pas mal, que ça soit avec la kiné ou avec aussi la psychologue et même les animatrices. C'est vraiment cette idée de lieu de vie et de essayer d'améliorer, enfin d'être au sein même de la vie du service, d'essayer aussi un peu d'améliorer la qualité de vie. Il y a des prises en charge individuelles, donc ça, c'est pas la majorité non plus de ma pratique, mais c'est vrai que c'est toujours dans l'idée, si c'est une personne qui sort de SSR, donc de rééducation, et qui a besoin encore de travailler certaines choses, c'est toujours très fonctionnel et en lien avec le kiné. La kiné, donc des fois, on a aussi besoin de voir les personnes à deux, de travailler pour bah, toujours dans cette idée de faire participer au maximum la personne et qu'elle maintienne au maximum aussi ses capacités. Il y a aussi donc dans l'accompagnement tout ce qui est mise en place d'aide technique au repas. Donc là, c'est là où aussi on peut travailler. En fait, je travaille beaucoup avec les équipes soignantes quand même. C'est souvent eux qui viennent voilà, me signaler des difficultés. Pareil pour tout ce qui est installation, installation au lit, installation au fauteuil, l'importance de la réévaluation quand il y a une perte, puisque c'est des personnes qui vivent ici, donc qui vont rester dans le service, qui vont rester longtemps et qui peuvent être amenées à perdre en capacité, donc de réévaluer tout le temps. Et après, il y a aussi donc l'aspect préventif, plus de la prévention. Prévention des risques cutanés, donc là, ça va être aussi toujours en lien avec les équipes, mise en place de matériel, donc tout ce qui est les matelas, les coussins, prévention des risques de chute, réaménagement de l'espace dans la chambre, en fonction. Donc ça, c'est aussi toujours en lien avec l'équipe et puis en discutant aussi des chutes, comment dans quel du contexte. Prévention aussi des troubles musculo-squelettiques auprès du personnel. Ça, j'ai une collègue qui est un petit peu plus affiliée à cette spécificité. Donc c'est elle qui va plutôt intervenir. Puis après, il y a aussi, donc là, c'est vraiment l'EHPAD. Et l'USLD, c'est plutôt ça. Après, je travaille aussi, j'interviens à l'hôpital, à l'HDJ gériatrique, hospice de jour. Donc, c'est des personnes qui viennent à la journée. Là, j'ai un 20%. Donc, voilà, je fais en moyenne 2 bilans par semaine. Ou ce sont des personnes qui sont à domicile, des personnes âgées à domicile, qui viennent généralement accompagnées de leurs proches, qui voient donc sur la journée tout un tas de professionnels. C'est un bilan général. Et moi, je les vois surtout parce que je ne vais pas voir toutes les personnes qui viennent à l'HDJ. Je vais voir essentiellement les personnes chuteuses à domicile. Et là, mon rôle, c'est vraiment un rôle plus de conseil, d'information. Donc, il y a aussi souvent des troubles cognitifs qui peuvent aussi se rajouter. Des familles qui ne savent pas vraiment non plus, des fois, comment accompagner leurs proches. Il y a la problématique de la chute, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui gravite autour. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu dans la gériatrie, c'est vraiment cet aspect assez global, finalement. Il y a peut-être un problème de départ qui crée le motif d'hospitalisation, mais après, il y a aussi tout ce qui est autour. Donc, c'est vrai que l'ergothérapeute, lui, il va considérer ben, la personne, mais aussi son environnement, l'environnement social, que ce soit l'environnement humain, l'environnement matériel, et puis toutes les occupations qu'on appelle toutes les activités de la personne. Et donc là, pour l'HDJ, c'est un bilan que j'aime bien réaliser avec le proche aidant, qui reprend les habitudes de vie à domicile, le logement, la dépendance en fait dans les activités de la vie quotidienne, là où sont les problèmes. C'est plus une discussion pour voir où sont les difficultés de la personne, pourquoi, qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui aussi à venir faire ce bilan. Et après, c'est vraiment beaucoup de conseils, donc des conseils en aide technique, en aménagement du domicile. On travaille des fois aussi avec des photos, on reste un peu en contact aussi avec les personnes, les besoins qu'il peut y avoir aussi en aide humaine, c'est pas que des aides matérielles, et après aussi pour pouvoir faire des relais à l'extérieur. L'idée c'est de repousser au maximum aussi peut-être l'institutionnalisation. Et enfin, donc j'interviens dans un autre service, un dernier service, donc c'est une unité d'hébergement renforcée. J'ai un petit temps alloué à ce service, mais c'est vrai que c'est une unité du coup avec des personnes âgées ayant des troubles du comportement. Donc c'est une unité qui a seulement 8 résidents. Et là, mon intervention, ça va être, bon, il y a toujours cet aspect, si les équipes ont besoin, voilà, que je les accompagne pour voir comment faire participer la personne âgée, quels aménagements aussi mettre en place s'il y a besoin d'aménagement. Et j'ai aussi une activité, donc une intervention plus en groupe avec la psychologue, où là on fait un atelier culinaire qui a pour but aussi voilà, de mettre la personne en situation et puis ben, aussi tout l'aspect sensoriel, le toucher, l'utilisation de certains ustensiles. Alors c'est généralement très limité, mais ça permet quand même à la personne de maintenir une activité. Les personnes participent ou non, c'est plutôt ouvert, ils viennent, ils vont. Il y a aussi des automatismes qui sont conservés chez certaines, notamment chez certaines dames, donc dans la préparation. Et puis aussi un petit groupe moteur toujours dans cet objectif d'essayer de conserver un peu les capacités motrices. C'est des personnes qui sont déambulantes et qui ont des capacités quand même motrices préservées pour la majorité. Voilà, et puis une petite partie aussi qui peut être de la formation des équipes, que ça soit pour montrer une aide technique, l'utilisation d'une aide technique. Là, c'est plus aussi en fonction des demandes, des échanges, formation aussi si besoin pour parler des troubles cognitifs, en collaboration avec la psychologue. Ça, c'est des choses qui ont été aussi mises en place. Donc, voilà.
Non, mais je trouve que c'est hyper riche. Je m'attendais pas à ce que tu puisses participer à autant d'endroits différents pour le patient et tout. C'est super.
C'est vrai que c'est varié et qu'il y a aussi voilà, beaucoup de champs d'intervention qui se croisent avec aussi beaucoup de professionnels et qui sont aussi toujours dans l'objectif en fait d'essayer d'améliorer et de faire participer la personne au maximum. C'est tout, c'est vraiment ça la ligne de mire, quoi.
Et c'est les paramédicaux ou les médicaux qui te demandent d'intervenir ou c'est bah, selon voilà, les besoins de chacun, il n'y a pas une procédure particulière pour ça?
Alors les ergos, nous, on travaille sur prescription médicale quand même. Après, les demandes, elles peuvent venir un peu de tout le monde. Ça peut venir des soignants voilà, qui ont des besoins, qui ont des demandes. Ça peut venir des familles. Ça peut venir après, bon, je suis quand même beaucoup dans les services. Donc, il y a aussi l'organisation qui se fait avec. Je suis assez proche donc des animatrices et puis de la psychologue aussi qui sont là dans la vie de l'unité. Donc, il y a des demandes qui émergent, des projets qui émergent aussi. Mais les demandes, elles peuvent venir vraiment de tout le monde, que ça soit de l'équipe soignante, que ça soit de l'aide-soignante, que ça soit de même l'ASH, que ça soit de l'infirmier, parce que je participe aux réunions aussi de tous les jours, réunions aux relèves. Ce qui fait que ben, souvent en discutant, des fois, ils ne pensent pas forcément, mais au fil de la discussion, ben, voilà, je me rends compte qu'il va y avoir un besoin. Et après, ben, c'est aussi les médecins qui ont des demandes, qui prescrivent, qui sont là pour faire voilà, les demandes.
Et après, quand tu parles d'aide technique, est-ce que tu aurais un exemple pour, voilà, pour nous donner à quoi ça correspond exactement?
Ben, c'est très vaste les aides techniques. C'est vraiment pour permettre à la personne de continuer à participer dans ses activités. Il peut y avoir l'aide technique pour, par exemple, se lever du lit, même ne serait-ce qu'un lit médicalisé, ben, pouvoir lever l'applicature de la tête de lit, ça peut être considéré comme une aide technique. Après, si la personne, pour essayer de conserver aussi son schéma moteur, il peut y avoir la barre de lit qui peut être mise en tête de lit pour que la personne vienne attraper la barre de lit et se lever en respectant un certain, donc, ce qu'on appelle un schéma moteur. Il peut y avoir, si la personne, après, une fois assise au bord du lit, a du mal à se mettre debout, toutes les aides techniques au transfert. Donc ça va du guidon de transfert jusque aux lèvres malades, aux lèvres personnes, aux rails. Donc, il y a différentes appellations. Ou alors même le déambulateur, si la personne voilà, a besoin d'un déambulateur. Toutes les aides techniques aussi, les fauteuils roulants. Là aussi, c'est important de réévaluer. Si, peut-être que voilà, à son entrée, la personne elle va avoir besoin d'un fauteuil roulant standard. Et puis, dégradation, il y a, et bien, il va falloir après switcher vers un fauteuil roulant de confort, donc le fauteuil qu'elle aura plus de difficultés, voire enfin, une incapacité à déplacer, mais qui permettra aussi d'avoir une meilleure installation. Il peut y avoir toutes les aides techniques au repas aussi, donc ça va du couvert avec un manche grossi, au couvert coudé, un verre avec une encoche nasale pour limiter le risque aussi de fausse route. C'est vraiment vaste. Et puis toutes les aides techniques à la marche, où là, c'est vraiment aussi en lien avec le kiné, que c'est bien de pouvoir discuter avec le kiné si toutefois il y a un kiné dans le service où on intervient.
Moi, en ayant un kiné dans mon service, je vois que c'est vraiment très couplé. Vous devez être un bon duo pour pouvoir travailler ensemble.
Et après, il y a aussi des fois des réévaluations, je pense à ça parce que je parle dans le sens où il y a une dégradation. Des fois aussi, il y a une amélioration, hein, donc ça s'est vu, des capacités. Donc là aussi, de pouvoir passer d'un fauteuil avec une coque moulée, des fois, voir. Là, j'ai l'exemple d'une dame qui maintenant est sur un fauteuil roulant standard, donc un petit fauteuil avec, et elle peut se déplacer en podal, donc avec ses pieds. Il y a aussi ce genre d'évolution.
Toi, tu parlais voilà, vraiment de spécifique de la gériatrie. Après, les ergots, on peut les retrouver un peu partout, mais peut-être exemple de où est-ce qu'il peut y avoir des ergots?
Après, en fait, des ergothérapeutes, il y en a dans beaucoup, beaucoup de domaines. En libéral, c'est essentiellement auprès d'enfants. Donc, pour justement des enfants ayant des dyspraxies, pour l'apprentissage du clavier à l'école, par exemple, ou dans le quotidien, comment améliorer le quotidien. Le but, c'est toujours, par contre, et après tout type de handicap, que ça soit il y avait du handicap plus neurologique, de la traumatologie. Tous les secteurs peuvent être, du moment en fait qu'il y a une perte de participation et d'autonomie, d'indépendance, les ergothérapeutes en fait peuvent intervenir dans les cliniques privées, à l'hôpital public, dans les centres de rééducation. Et c'est toujours dans cet objectif de s'adapter à la personne, à ses habitudes de vie et d'essayer de faire en sorte finalement qu'elle puisse participer au maximum dans les activités qui lui sont importantes en fait.
Et je reviens à la partie bricolage que tu nous disais en début de podcast. Donc, la partie, quand tu bricoles, c'est plutôt quand tu essayes de mettre des choses en place dans tout ce qui est aide technique.
Oui, c'est beaucoup à ce niveau-là. Essayer de trouver des solutions quand des fois la solution standard ne correspond pas. Dans le positionnement aussi beaucoup, parce qu'il existe des coussins tout prêts, tout faits, mais c'est des fois pas suffisant et il faut en fait essayer de trouver des solutions pour positionner correctement une personne, l'aider à se sentir mieux. Et là, il y a une voilà, c'est là où intervient la partie plus bricolage. Il y a aussi tout ce qui est dans une des spécificités, donc moi j'exploite pas. Il y a aussi tout ce qui est orthèse, création d'orthèse pour surtout les membres supérieurs et aussi pour dans cette création d'aide technique si l'aide technique standard ne correspond pas à l'incapacité de la personne.
Et donc, entre ergo, vous donnez, je sais pas, des petits tips ou ce genre de choses. Par exemple, si je sais pas, toi ou une de tes collègues a trouvé que plutôt faire comme ça, c'était mieux, ou pour tel patient,
Oui, énormément. Moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup le travail aussi. J'ai toujours travaillé avec d'autres ergothérapeutes, des collègues. Et ça, c'est vraiment aussi hyper riche de pouvoir échanger. Et on le fait spontanément et beaucoup. À Lyon, c'est vrai qu'on était une équipe de 9 ergos. Et ben, tout de suite, tu as une question. Ça te permet de, justement, tu es bloqué, tu trouves pas de solution pour une personne. Et ben, t'en discutes et puis chacun ramène son expérience et ça, c'est hyper important. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a aussi quand même beaucoup hein, d'ergos qui donnent des petites astuces. On peut trouver des choses. Il y a la formation continue à l'hôpital qui est aussi très importante, qui permet aussi de se remettre à jour et puis de pouvoir échanger avec d'autres ergos. Ça, c'est super, super important.
t'as des exemples des patients que tu as vu évoluer ou au contraire que tu as vu se dégrader et qui t'ont vraiment touché ou...
Ben ça, oui, ça arrive, hein, ça arrive souvent de pouvoir. Là, j'ai l'exemple hein, de la dame dont je parlais qui était dans son fauteuil, qui est rentrée, avait sorti donc de rééducation et qui est rentrée et qui était dans un fauteuil avec une coque moulée sur mesure, donc avec très très peu d'autonomie. Et elle a une dame hémiplégique avec en plus une fragilité émotionnelle très importante. Puis en fait, c'est une étudiante infirmière qui l'a suivie. Et qui m'a demandé si on pouvait, qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose, si on pouvait essayer de travailler un peu la verticaliser, la mettre debout. C'est une dame qui était levée, donc au lève-personne. Et donc au début, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. C'est vrai que, parce que bon, je vois beaucoup, beaucoup en plus de résidents, donc des fois, j'ai pas, c'est pour ça que c'est hyper important aussi. J'ai pas forcément toutes les idées, même si je les vois, les résidents, quand ils rentrent, etc. Donc on a commencé un travail de verticalisation très compliqué parce que, peu de tonus sur sa jambe valide, mais une dame qui s'est montrée quand même volontaire. Au fil des mois, il y a eu quand même une très très belle évolution. Elle a réussi à tenir de mieux en mieux. Il fallait un soutien très important au départ, et puis petit à petit, en fait, elle a progressé. Les soignants après se sont mis à faire les transferts avec le guidon de transfert le matin quand elle était en forme. Et petit à petit, on est arrivé à vraiment une énorme progression. Ma collègue qui l'avait suivie en en rééducation, même n'en revenait pas. Et puis même personne, voilà, croyait que ça pourrait, qu'elle pourrait évoluer, sa famille aussi énormément. Et puis aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'elle est donc dans un fauteuil, dans un petit fauteuil, donc fauteuil standard. Elle se déplace en podal. C'était un souhait très important pour elle de pouvoir aussi se déplacer un peu plus en autonomie. Et puis elle parvient à faire ses transferts au guidon de transfert et plus aux lèvres-personnes. Elle a repris quand même, c'est vrai, beaucoup de plaisir à pouvoir participer de cette façon. Ça a été aussi pour s'alimenter parce qu'elle était en texture lisse, je crois, ou en tout cas hachée. Et puis petit à petit, elle a repris. Et c'est vrai que c'est une très belle évolution. Participer aussi pour sa toilette. Au départ, vraiment, elle participait vraiment quasiment pas. Donc ça a été une des dames, voilà, qui a bien marqué mes derniers mois là, ma dernière année. Et puis après, c'est sûr qu'il y a des fois aussi, ça peut aller rapidement dans l'effet inverse, et avec une personne qui va chuter, qui va se dégrader rapidement ou qui va faire un accident. Donc c'est sûr qu'il y a aussi dans l'autre sens que ça arrive. Mais après, oui, des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup, et des familles qui, donc aussi pareil pour l'hospitalisation, de jour, ou pour des personnes qui étaient en rééducation, qui retournent à domicile, et d'avoir des retours des fois des familles en disant: ah ouais, ça j'aurais jamais pensé, et puis en fait ça m'a vraiment facilité et ça a changé. Ça, c'est vrai que c'est des témoignages qui sont fréquents et qui rappellent aussi pourquoi on fait ce métier.
Ouais, j'imagine que les familles, elles doivent être. Tu dois les. Quoi, ça doit être des personnes sur qui tu dois compter ou tu peux compter, ou au contraire des personnes qui te sollicitent pour pouvoir améliorer la qualité de leurs proches.
Oui, c'est des personnes ressources. Et après, il y a aussi parfois des personnes qui peuvent être aussi dans le déni, pour qui ça va être difficile, voilà, de voir, de constater une dégradation, une perte d'autonomie chez leurs proches. Les troubles cognitifs, c'est très très difficile pour les proches aussi, la majorité. Donc essayer, voilà, de mettre l'accent sur ce que la personne aussi est encore en capacité de faire, les accompagner pour peut-être leur dire, parlez-leur de souvenirs anciens plutôt que de souvenirs immédiats. N'allez pas lui demander ce qu'elle a mangé à midi, mais peut-être, voilà, reparler de souvenirs anciens. C'est des petites choses comme ça, mais qui peuvent aider aussi, des petits exemples.
Et eux, ils peuvent être accompagnés, je sais pas, par la psychologue, par le fait de perdre d'autonomie de leurs proches ou...
Oui, la psychologue rencontre les familles. Il y a des familles qui d'ailleurs ont un suivi, hein, par la psychologue du service, qui elle a davantage d'ailleurs un rôle plus important à ce niveau-là, de formation, d'information, d'accompagnement et de compréhension des troubles aussi. Mais j'espère déjà que ça aura permis à beaucoup de personnes de mieux comprendre ce qu'était le métier d'ergothérapeute, hein. Je pense, c'est sûr que même des fois, quand on travaille avec des ergothérapeutes, on peut avoir aussi une vision un peu superficielle, et que ça aura permis à ces personnes-là peut-être de mieux connaître le métier d'ergothérapeute. Ça aura peut-être donné aussi envie à certains étudiants perdus dans leur orientation de se renseigner sur ce métier-là. Puis après, moi, je trouvais important aussi de rappeler l'importance, parce que bon, c'est sûr qu'à l'hôpital, c'est de plus en plus compliqué actuellement, les effets n'y sont pas. Donc des fois, on est dans cette routine-là. Je parle surtout, hein, des équipes soignantes qui peuvent être complètement dépassées par le fait de devoir remplacer les effectifs manquants, etc. Mais de pouvoir peut-être se re-questionner des fois sur leur pratique, comment essayer d'individualiser. Moi, c'est ça qui, je trouve, important, de vraiment bien mettre la personne au centre de notre accompagnement, et de pouvoir un petit peu personnaliser. Des fois, on a l'impression qu'on ne va pas avoir le temps de modifier, de s'adapter à la personne, peut-être de lui faire prendre son petit déjeuner à 11 h plutôt qu'à 9 h, ou de lui faire prendre sa douche à 15 h plutôt que le matin, si c'est son habitude. Voilà, je trouvais important de dire un petit mot sur l'importance d'essayer d'individualiser On a la chance aujourd'hui, voilà, d'avoir des outils et je pense notamment au projet d'accueil personnalisé des personnes pour réfléchir ensemble aux habitudes de vie de la personne. Il ne faut pas oublier que dans les unités de soins longue durée ou dans les EHPAD, ben, c'est leur lieu de vie. Et des fois, ben, on est dans notre routine et on oublie un peu de s'adapter. Alors, ce n'est pas du tout un reproche, hein, mais s'adapter à la personne et de me dire que c'est peut-être aussi ce qui donne du sens à notre pratique de se dire qu'on travaille voilà, avec des personnes qui ont des habitudes de vie et d'essayer d'aller au plus proche et de réfléchir ensemble pour en fait faire en sorte qu'ils aient la meilleure fin de vie possible dans les services.
Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage. Je trouvais que c'était important. Voilà. Je dis ergo, c'est quelque chose moi aussi que j'ai découvert un peu sur le tard et je trouve important de faire parler de quelqu'un qui travaille là-dedans. Je trouve ça génial.
Ben merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon métier.
Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!